La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 euros par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation.
Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 euros. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur Suzuki.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC, on démarre Estelle Midi avec l'actualité du jour et ce sont les révélations de BFM TV concernant les conditions de détention de Mohamed Amra, ce détenu en cavale après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire. On apprend que Mohamed Amra pouvait téléphoner tranquillement ou encore fumer la chicha dans sa cellule. Bref, Rémi, il continuait de gérer ses affaires tranquillement.
Ouais, présenté comme un délinquant de moyenne intensité, il faut se le rappeler quand même. C'est un tout autre portrait qui se dessine selon les infos de BFM TV. Au cours de ces différentes détentions, entre mars 2016 jusqu'à juin 2019, puis de janvier 2022 jusqu'au 14 mai dernier, date de son évasion, l'homme s'est ainsi procuré de multiples téléphones portables, quasiment à volonté, pour continuer à gérer son trafic de drogue depuis sa cellule. Rien qu'entre janvier et mai 2023, ce sont pas moins de 9 téléphones portables qui sont saisis dans sa cellule de la prison de la Santé à Paris. 9 téléphones portables saisis, on imagine qu'il y en a eu bien d'autres. Des portables qui lui permettent de surfer sur des sites de rencontres, mais surtout d'appeler ses contacts en utilisant les messageries cryptées parfois telles que Signal. Par ce moyen, il donne ses ordres sur l'organisation de son trafic de drogue et sur la gestion de points de deal. Il conseille, engueule, menace parfois ses comparses. Il monte également des vols de transport de drogue aux dépens d'autres clans. Il est soupçonné par ailleurs d'avoir commandité l'enlèvement d'un homme assorti d'une demande de rançon en Seine-Maritime. Tout ça toujours depuis derrière les barreaux. Ce n'est pas tout. Au début du mois de novembre 2022, Mohamed Amra aurait également cherché à se procurer des armes de guerre auprès d'un mystérieux fournisseur avec lequel il négocie l'achat pour 6 000 euros pièce de fusils mitrailleurs, des fusils d'assaut similaires à l'une des armes utilisées par l'un des membres du commando le 14 mai dernier lors de son évasion sanglante.
Alors, téléphone, chicha, pique-nique, parce qu'on rappelle bien sûr qu'hier on a parlé de ce pique-nique hein, organisé au château de Versailles pour des détenus. Téléphone, chicha, pique-nique, la prison est-elle devenue le Club Med? C'est la question qu'on vous pose et que je vous pose, Thierry Moreau.
Alors bon, moi, je mettrais le pique-nique à part parce que c'est quelque chose de légal. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ça, mais c'est quelque chose d'encadré et de légal. Donc je mettrais ça à part. Tout le reste est illégal. La drogue, les armes, et ça, c'est un vrai problème. On s'aperçoit aujourd'hui que la prison est une passoire, pas un Club Med, mais une passoire. C'est un lieu de non-droit. Il est impensable, quand on lit à la fois l'enquête de BFM RMC et le papier dans Le Parisien, de voir que ces têtes de réseau continuent à travailler de manière tout à fait normale en prison. C'est-à-dire que la prison, c'est censé être une privation de liberté, mais donc évidemment une privation de continuer son trafic. Et c'est pas le cas. Le fait qu'une chicha arrive, ça pose un sacré problème, parce que de la drogue arrive, que des téléphones arrivent. Mais une chicha, ça veut dire qu'il y a une parce qu'elle n'est pas passée par-dessus la barrière.
Si on ne peut pas la cacher sous le matelas, quoi.
Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une complicité interne. Complicité interne.
Selon Le Parisien indique également, ça je l'ai pas dit, mais qu'il se faisait livrer quand il le souhaitait de la nourriture, du cannabis.
Oui, c'est ça, une sorte de Uber Eats à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il pouvait se faire livrer.
Je vous rappelle qu'on a vu aussi des piscines gonflables dans des cellules de détenus. Donc
Ça sous-entend quand même des complicités dans la prison, donc ça pose un vrai problème. Après, je me souviens d'un certain nombre de surveillants qui nous expliquaient que le fait de permettre les téléphones portables et de permettre la drogue, ça permettait d'acheter un peu la paix et de faire en sorte que les gens ne se révoltent pas trop lorsqu'ils étaient en prison. Sauf que visiblement, ça ne fonctionne pas, parce qu'on n'arrive pas à mettre le curseur pour que ça soit juste pour avoir la paix. En fait, c'est un vrai trafic et c'est devenu n'importe quoi, c'est devenu une passoire. Donc je pense qu'il faut tout simplement que la prison redevienne un lieu de plein droit et non pas un lieu de non-droit où la loi est respectée, parce que la stratégie de laisser un petit peu passer les choses, ben, ça fonctionne pas. Et puis je crois que c'est même pas un problème de moyens, parce que j'ai lu aussi dans les mêmes enquêtes que dans certaines prisons où a été Amra, il y avait des brouilleurs. Ben, ça l'a pas empêché de travailler. Donc est-ce que le brouilleur était éteint? Est-ce qu'il fonctionnait pas? Donc c'est pas un problème de moyens. C'est un problème de volonté politique.
Après, la chicha, c'est pas tout à fait comme le téléphone. C'est-à-dire que la chicha, aujourd'hui, il y a des bars à chicha à Paris. Il me semble que c'est légal. Et dès lors que t'as le droit de fumer des cigarettes, Bah, tu peux avoir. Tu peux.
C'est quand même illégal de faire venir une chicha dans une cellule.
Je suis d'accord. Mais
c'est juste ça.
Moi, ça me gêne moins que le téléphone. Tu vois, si on doit faire une hiérarchie des choses.
Mais sauf que vu la taille de l'objet, ça sous-entend une complicité interne.
Oui.
C'est ça qui me pose problème.
Une personne n'a pu l'amener dans une poche. Ça,
voilà, il faut rappeler ce chiffre qui est paru il y a 15 jours. L'Office français des drogues et des toxicomanies, de lutte, qui disait que aujourd'hui, chaque jour, un détenu sur quatre fume du cannabis en cellule.
Oui, ça pose aussi des problèmes de sécurité, d'ailleurs. Emmanuel Dancourt, est-ce qu'il faudrait être plus ferme en prison ? Je ne dis pas qu'on tombe de l'armoire quand on lit ce matin. Mais bah, on savait déjà que de toute façon, il y avait des trafics en prison, etc. Mais là, de cette ampleur, peut-être pas. Mais est-ce qu'il faut être plus ferme ? Voilà, revenir à plus de fermeté.
Oui, sur tout ce qui est illégal, comme l'a très bien pointé Thierry. Merci d'avoir fait la part des choses, évidemment. Et moi, quand je t'entends dire, mais je sais que tu le dis à ton corps défendant, mais qu'on a acheté la paix sociale en prison en permettant drogue et téléphone, on en est là quand même. C'est quand même complètement dingue. Après, je vais juste revenir sur quelque chose. La prison, c'est un lieu de privation de liberté, tout à fait, mais c'est aussi un lieu où on se prépare à la réinsertion. Et il y a tout un tas de choses qui sont faites en prison pour préparer les détenus capables de se réinsérer à la réinsertion. Donc, ils travaillent, il y a des cours.
Je crois que je vais vérifier les chiffres, Emmanuel. Je suis désolé, je parle beaucoup, mais je crois que c'est 3% des détenus qui travaillent.
Hein. Ouais.
Ah bah oui, et puis la réinsertion, c'est pas continuer le boulot de trafiquant que tu faisais avant de rentrer.
Ni de fumer du cannabis en cellule.
On fait quoi ? On fait quel constat ? On fait que nos prisons sont malades et ça n'est pas nouveau. On est sur un taux d'occupation, si on prend les chiffres de 2022 qui sont les plus récents, un taux d'occupation moyen en maison d'arrêt de 138,9%. Ça veut dire qu'il y a plus d'un détenu sur deux qui vit dans des prisons qui sont suroccupées à 120%. Donc ça pose des problèmes. On est sur une surpopulation endémique. On sait très bien que la plupart des prisons sont totalement insalubres. Forcément, tout cela augmente le nombre de violences. Et je rappelle que la France a été épinglée en janvier 2020 par la Cour européenne de justice et on a été condamné pour l'indignité de nos prisons. On nous a demandé de prendre des mesures.
Il y a trop de laxisme.
Ces mesures ont été prises et visiblement, ça n'a pas suffi. La preuve, on en arrive à cette incroyable histoire de Mohamed Amra.
Est-ce qu'il faudra un Grenelle des prisons à un moment, Fred Hermel ? Non, mais c'est vrai, parce que là, tout le monde voit qu'il y a un truc qui ne va pas. Quand je dis un truc, c'est 1000 trucs qui ne vont pas. Mais enfin, on a l'impression qu'on ne fait rien, quoi. On ne construit pas de prison. Les conditions de détention, alors on le sait, il y a aussi des prisonniers qui dorment par terre sur des matelas. Mais enfin, on voit qu'il y en a d'autres aussi qui fument la chicha et qui peuvent téléphoner en toute impunité. Donc, c'est vrai que ça pose quand même question.
Tu vas me permettre de répondre à la...
Bien sûr.
À la question principale.
Vas-y.
Il faut vraiment n'avoir aucune idée de ce qu'est la prison pour penser que ça peut être un Club Med. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, avec ces exemples-là, pensent que la prison, oh bon, finalement, t'as un peu pris de liberté, mais enfin, tu te la coules douce. Non, non.
Bah, Mohamed Amra, il n'était pas pris de liberté, manifestement.
Non, mais le problème, c'est que ce sont ces exemples et les révélations qui sont faites. Quand on voit, on a parlé hier de ce pique-nique à Versailles, etc., la course de karting et les piscines, on a l'impression que c'est... Non, la prison, c'est l'horreur. Il faut savoir, c'est la réalité, donc il ne faut pas imaginer que les détenus vivent leur plus belle vie en prison. Ce n'est pas vrai. Après, qu'il y ait de graves problèmes de sécurité, c'est une évidence. On le voit encore. C'est une évidence. Mais surtout, attendez, vous savez, les prisons, elles ne sont pas chauffées, donc il fait glacial l'hiver, il fait bien sûr, pas réfrigéré, donc hyper chaud l'été. Enfin, je veux dire, c'est l'horreur, la prison. Et il faut expliquer.
Bah, manifestement, ça dépend pour quel détenu.
Bah, oui, mais alors, ça, c'est un autre sujet.
Bah, non, c'est pas un autre sujet.
Mais je ne veux pas
la prison, c'est la même pour tout le monde.
Je ne voudrais pas que ces exemples-là fassent croire, j'insiste, que la prison, c'est sympa. Non, c'est pas sympa, la prison. C'est l'horreur. Par contre, qu'il y ait des vrais problèmes. Et aujourd'hui, les spécialistes vous expliquent que les drones circulent toute la nuit en prison.
Et vous trouvez ça normal ?
Ah ben c'est pas normal. Pour des questions de sécurité, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais ces exemples-là sont fréquents. C'est une évidence. Il y a un vrai problème de sécurisation en France. Et qu'on sort de nouvelles prisons, bien sûr, alors le Grenelle, qui est une vraie refonte. Mais je vais te dire, Estelle,
mais ça me paraît être la base.
C'est que dans notre pays, on a besoin d'une refonte. De
oui, c'est vrai. Faut faire un Grenelle.
Mais le problème, c'est-à-dire que cette discussion sur le Grenelle... Attends, je termine. Oui. On dit l'éducation.
Ah bah oui.
L'insécurité, les transports, Enfin, tout est à refaire. La justice, on nous dit tous les jours, on peut faire un débat et tu peux me poser la question. Est-ce qu'on a besoin d'un Guenel, d'un Grenelle, trois petits points, ajouter le mot.
Non, c'est vrai, t'as raison.
Et le plus grave par rapport au laxisme dont vous avez parlé au début, c'est que ces informations ne sont pas remontées à qui de droit, parce que normalement, si toutes les informations
quoi, elles sont remontées, mais la personne a fait la sondoie
et qui existent ne sont pas remontées à qui de droit pour le classer DPS, détenus particulièrement surveillés. Ils ne l'étaient pas, alors que tout ce qu'on lit là justifierait qu'il soit classé en DPS.
En plus, tout le monde le savait, parce que en fait, la cellule était écoutée. Oui. Mais j'imagine, on n'est pas dans une série, mais qu'on a écouté sa cellule pour pouvoir avoir quelqu'un d'encore plus gros, en se disant, lui, il est moyen, en fait, mais on va peut-être avoir un très gros, quoi.
Peut-être. Il était écouté parce qu'il est mis en examen dans le cadre d'un meurtre, d'un assassinat.
D'accord.
Donc, c'est dans le cadre de cette enquête qu'il était sur écoute.
Oui, mais enfin, ils ont quand même bien dû voir qu'il y avait, que c'était pas juste un petit malfrat, vu tout ce qu'on.
Et donc, ces infos sont restées.
En 2023, un magistrat qui s'occupait du dossier Amra avait commencé à dire que finalement on avait peut-être affaire à une tête de réseau et qu'il y avait peut-être une vingtaine de personnes sous ses ordres. Donc,
mais cette information n'a pas circulé.
Je tiens à dire quand même qu'on construit des prisons. Il y a 50 prisons qui sont en cours. Il y en a déjà une bonne partie qui ont été livrées. Il y avait 15 000 places qui devaient être faites, 75 000 places pardon, pour 2027. Il y a déjà 19 établissements qui ont été livrés. Il y en a 9 en travaux, dont 4 en Île-de-France. On construit des prisons. Il ne faut pas dire qu'on ne construit pas de prisons.
On est très loin.
Pas encore le problème. Oui, mais on construit des prisons.
On est très loin de l'objectif initial affiché.
On a
Greg qui est avec nous, qui nous appelle de Loire-Atlantique, qui est chauffeur de poids lourd, mais qui a été incarcéré pendant 3 ans. Bonjour Greg.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour. Et merci d'être avec nous. Donc vous allez pouvoir nous dire si les prisons, c'est le Club Med. La question, elle est un peu provoque. C'est fait exprès, Greg, mais c'est vrai que quand on voit tout ce qu'a pu faire Mohamed Amra, on est un petit peu abasourdi quand même.
Bah, j'ai envie de vous dire, maintenant, je comprends pourquoi vous êtes les meilleurs. Parce qu'en fait, tous les arguments que je voulais utiliser, vous les avez
Ah mince. Mince. Bah, allez-y quand même, parce que vous, là vous connaissez le sujet.
Non, mais après, est-ce que c'est le Club Med? Je vais dire oui et non. Comme a dit Fred, ça dépend pour qui. Parce qu'il ne faut pas oublier que oui, c'est le Club Med pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, c'est aussi un gros, gros, gros calvaire, les prisons. Il ne faut pas l'oublier.
Après, c'est l'idée.
Voilà, après, comme a dit Thierry, c'est vrai qu'à un moment donné, tout le monde le sait. Tout le monde le sait qu'il y a des drones. Tout le monde le sait qu'à telle heure, il y a les promenades qui sont de telle heure à telle heure. Et il y a des jetaves qui sont jetés de la promenade. Les surveillants le savent. Les surveillants le voient. Il y a des miradors. Ils les voient, les jetés qui sont faits. Donc, à un moment donné, pourquoi ils les arrêtent pas? Pareil pour les brouilleurs. Pourquoi ils les utilisent pas? Si à un moment donné, ils voulaient vraiment, vraiment arrêter tout ça, ils peuvent, parce que tout le monde le sait, comme vous l'avez dit, on peut pas rentrer une chicha comme ça sans que personne le voie.
Non. Donc, bah non, parce qu'on est. En plus, c'est forcément une chicha qui est rentrée avec un visiteur, parce que je pense pas que le drone amène une chicha quand même. Donc ça veut dire que soit le visiteur a pas été fouillé, soit on a laissé faire. Mais Greg, quand vous étiez incarcéré justement, est-ce que vous avez eu droit à des petites livraisons comme ça par drone ou vos proches qui vous faisaient passer un portable ou d'autres choses?
Moi, j'ai pas eu accès à ça. La seule chose où j'ai eu accès, c'est vrai, parce que après moi, c'était pas surtout pour du trafic, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on est coupé de la vie, c'est vrai qu'on a envie d'avoir un peu des nouvelles de la famille. Donc c'est vrai, j'ai déjà utilisé des téléphones portables et en fait, je faisais de la location. C'est-à-dire que je demandais à un détenu qui avait un téléphone portable à lui et en fait je lui louais pour une heure, pour l'après-midi, pour la journée, pour contacter ma famille. Mais moi c'était juste vraiment pour contacter ma famille.
Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a du trafic de portables. C'est-à-dire qu'en fait vous saviez qui louait des portables. C'est-à-dire qu'il y a de la location de portables en prison. Mais c'est dingue ce que vous nous dites.
Ah oui, non, mais oui, mais je vous le dis. Moi après je sais que vous aurez un surveillant qui aura la parole tout à l'heure, mais même lui, il pourra vous le dire, il y a de la location de téléphone portable.
C'était combien l'heure?
Comment?
C'était combien l'heure?
C'était 50 euros l'heure.
Ah, quand même! Ah oui, oui, ah oui, là, c'est lucratif,
c'est du racket!
Mais un iPhone 4, il se vend plus de 600 euros l'iPhone 4.
Hein. Ah, mais d'accord.
Ah oui, et le dernier iPhone, par exemple, l'iPhone 15, il tourne autour de 2000 à 2500 euros.
D'accord. Et donc, en fait, il y a du trafic de portables en prison.
Comment on fait pour payer? Parce que quand vous disiez pour payer, Comment? Parce qu'il n'y a pas d'argent en prison.
Bah, tu peux te faire amener de l'argent par tes proches.
Les mandats où, comme vous le savez, Fred, comme vous êtes dans le milieu sportif, vous connaissez les paris sportifs, et au lieu de faire un mandat cash, vous payez en PSF carte.
Oui, bien sûr. Voilà.
Tout simplement.
Okay. Non, et vous aviez accès à Internet aussi, Greg?
Oui, on a accès à Internet. Parce qu'en fait, on sait exactement, comme je vous l'ai dit juste avant, il y en a pour certains, la prison se passe très bien. Et en fait, ces personnes-là, c'est eux, entre guillemets, qui chapeautent tout. Donc, on sait exactement qui a les portables, qui a le shit, qui a l'alcool. Oui. Moi, je vous mens pas. Moi, j'ai passé un jour de l'an à boire de la vodka et du whisky avec mon codétenu pour fêter le nouvel an. Et cet alcool-là, moi, j'avais pas la possibilité, j'avais pas mes collègues qui avaient des drones ou qui pouvaient jeter, mais je savais très bien qui en avait en prison et j'allais le voir lui directement et je lui achetais à lui directement.
Mais Greg, pardon de cette naïveté, mais si vous saviez, c'est-à-dire que les surveillants savent, alors ça veut dire, est-ce que les surveillants sont arrosés par les détenus pour fermer les yeux ou est-ce qu'ils ne voient pas, tout simplement?
C'est compliqué à répondre à cette question parce qu'en fait je pense, après moi je l'ai pas vu, mais je pense qu'il y en a qui doivent être payés, des surveillants, et il y en a d'autres où les pauvres, après où les pauvres ils sont tellement dépassés qu'en fait ils veulent même plus nous surveiller. Moi je vous dis, après là on parle des chichas et tout, mais moi je vous dis, quand des fois on est 200 dans des cours où il y a des bagarres, et les surveillants ne rentrent même pas pour séparer. Et ils le voient, c'est devant eux. Donc est-ce que c'est un ras-le-bol de leur part? Est-ce que je sais pas. Mais après, tout le monde le sait.
Merci beaucoup en tout cas Greg pour ce témoignage très fort sur ce qu'il se passe aujourd'hui dans les prisons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et vous avez des messages, Rémi, également sur la
pyramide. Abou qui nous écrit, lui aussi a été en détention. J'ai fait de la prison, nous dit-il, sur Direct Studio, durant 6 mois, et je certifie que l'on trouve ce qu'on veut en prison encore plus facilement qu'à l'extérieur.
Alors, notre invité sur ce débat, c'est Wilfried Fonck. Il est secrétaire national de l'UFAP UNSA Justice. Bonjour Wilfried.
Bonjour Estelle.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous tombez juste après le témoignage de Greg, cet ancien détenu qui nous a raconté ce qu'il se passait en prison. Et est-ce que vous, qui êtes de l'autre côté, on va dire, vous avez la même vision des choses? C'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce que en prison, déjà, il y a des conditions de détention différentes en fonction des détenus? Et est-ce que effectivement, la drogue, l'alcool et les téléphones circulent comme dans la vie normale?
Alors, des conditions différentes de détention entre certains détenus, non. Qu'il y ait une différence finalement en termes de moyens dont disposent les détenus, oui, puisque forcément les niveaux de vie ne sont pas les mêmes en fonction de leur activité criminelle. Pour autant, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que les conditions de détention qui sont décrites, nous, c'est nos conditions de travail. On travaille dans ces conditions-là. Et quelque part, derrière, ça fait 30 ans que la prison est malade, ça fait 30 ans que tous ceux qui succèdent à la place Vendôme ou à Matignon ou à l'Élysée ne font pas du milieu carcéral une priorité politique et budgétaire. Et aujourd'hui, on se retrouve en France avec des prisons qu'on mérite. Alors effectivement, le système politique veut que on ne fasse pas de vagues, c'est toujours comme ça, c'est pas de vagues au niveau des ministères. Aujourd'hui, c'est plus une vague, c'est un mur d'eau, et c'est les personnels pénitentiaires qui doivent surfer dessus tous les jours. Et pour les personnels, ça veut dire quoi? Ça veut dire des agressions physiques, des agressions verbales, des projections qui viennent de l'extérieur, des survols de drones avec des tonnes d'objets, alors des stupes, des téléphones, des couteaux, de la viande, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer, mais derrière tout ça, c'est la sécurité de la structure qui est remise en cause, la sécurité des personnels également. Oui. Donc à un moment donné, on a des missions, qu'on nous donne les moyens pour pouvoir les exercer. Oui. C'est tout.
Mais est-ce qu'il y a, Wilfried, pardon de mettre les pieds dans le plat, mais est-ce qu'il y a de la corruption aujourd'hui en prison? C'est-à-dire que est-ce que certains surveillants laissent faire en échange de services ou d'argent?
Alors, les surveillants laissent faire, non, parce que les surveillants, ils cavalent toute la journée entre la gestion d'une population pénale qui est de plus en plus nombreuse et d'un effectif en personnel qui, lui, va dans le sens inverse, puisqu'on est en sous-effectif chronique depuis des années. Donc, après, vous me parlez de corruption. Il y a moins de corruption chez les personnels pénitentiaires que dans d'autres milieux que je ne citerai pas, parce qu'il faut se baser sur des faits objectifs.
Et mais c'est pas parce qu'il y a moins. Oui, il y a des milieux où la corruption est toujours gênante, mais quand elle est en prison, c'est encore plus gênant, j'ai envie de dire.
Ah ben, j'entends bien ce que vous voulez dire, mais à 99,9%, la probité des personnels, elle n'est pas à remettre en cause.
D'accord.
À aucun moment.
D'accord.
Moi, quand je vois le nombre de procédures disciplinaires qui aujourd'hui passent pour les personnels en raison de faits de corruption, quand on en a une par an, honnêtement, on peut s'estimer franchement heureux, entre guillemets, quoi. Mais il n'y en a pas plus. Il n'y a plus de procédures judiciaires ou d'enquêtes qui sont ouvertes pour ça.
Ok, donc, mais comment Ahmed Amra a une chicha dans sa cellule? Je suis désolée, à moins que le surveillant soit aveugle, ça se voit une chicha. Ce n'est pas un paquet de clopes planqué sous le matelas. Donc comment vous expliquez qu'on ait laissé cette chicha? C'est bien que soit à un moment le surveillant a décidé de laisser faire, soit il a été payé pour laisser faire, vous voyez?
Alors, payer pour laisser faire, ça, je veux même pas l'entendre.
Ouais, ok, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Mais moi, je suis obligée de vous poser la question.
Est-ce que lui l'a vu? Oui, forcément, il l'a vu.
Bah
après,
oui.
Derrière, il se passe quoi? Bah, le surveillant, il a lui aussi une hiérarchie. Une hiérarchie intermédiaire dans son bâtiment, son chef de bâtiment, l'adjoint du chef de bâtiment, qui eux-mêmes ont aussi une hiérarchie, qui
d'accord.
s'appelle le chef d'établissement. Et à partir du moment où on est toujours dans cette logique de pas de vague, eh ben, il se passe quoi? Eh ben, on a parfois des décisions qui sont prises, qui peuvent surprendre, qui vous surprennent vous, mais qui surprennent nous en tant que professionnels. On va dire, on achète la paix sociale, en fait. Et effectivement, on achète la paix sociale dans les prisons. Pourquoi? Parce que, revenons à la période du Covid, quelques temps en arrière. Mm-hmm. À partir du moment où il y avait des parloirs avec des dispositifs de sécurité, voire pas de parloirs du tout, en raison du confinement, tout ça rentrait plus, en fait. Donc, si effectivement, demain, on souhaite ne plus faire rentrer, ça ne rentrera pas. Par contre, faut être prêt derrière à ce que les prisons deviennent de véritables cocottes minutes, à ce qu'on envoie au casse-pipe les personnels qui vont gérer les détenus qui vont monter en température, et puis demain, il va falloir reconstruire des nouvelles prisons parce que tout sera cramé.
Voilà, ce que vous dites, Wilfried, ce qu'on entend, c'est même si c'est illégal, en fait aujourd'hui, concrètement, on va dire plus confortable de laisser des détenus prendre de la drogue ou prendre de l'alcool ou fumer en cellule.
C'est un aveu d'échec.
On a acheté la paix sociale et on fait naître un sentiment d'impunité.
En fait, ce que vous venez de dire sur la consommation de stupéfiants, l'usage des téléphones et compagnie, ça n'engage que vous. Il faut bien vous dire que quelque part...
Ça n'engage pas que moi, parce que ça existe.
Les personnels font leur maximum pour lutter contre ces trafics,
d'accord.
pour lutter contre la présence de ces téléphones. Mais prenez l'exemple aujourd'hui dont on parle de cet individu-là qui s'est évadé dans un commando totalement meurtrier, qui a tué deux de nos collègues. Ce gars-là, on lui tape 9 téléphones. Donc ça veut
en
dire
six mois.
Tous ceux en 6 mois.
Donc vous avez fait votre boulot, ça c'est sûr.
Donc quelque part les 9 téléphones, imaginez tous ceux dont on n'a même pas connaissance, c'est-à-dire
bien
que on n'en parle pas. Derrière c'est il y a la capacité dans la minute qui suit d'en avoir un nouveau.
C'est ça. Qui...
Donc pour nous c'est une véritable course à l'échalote en fait. On se bat contre des moulins à vent. Les personnels pénitentiaires et notamment les personnels de surveillance, imaginez tous les jours pour eux ils sont en train de jouer des Don Quichotte en fait.
J'entends. Mais s'il y avait des brouilleurs. S'il y avait des brouilleurs, en fait, ce serait aussi plus confortable pour les agents pénitentiaires. Ils n'auraient même pas à supprimer les portables ou à les confisquer parce qu'il y aurait des brouilleurs, vous voyez?
Mais les brouilleurs, j'ai envie de dire, Estelle, c'est très bien sur l'instant T, mais derrière, la technologie, elle évolue. Donc si derrière, le système de brouillage, lui, il n'est pas mis à jour en conséquence, votre système de brouillage, il ne fonctionne pas. C'est comme pour les drones, même tarif.
C'est comme pour le dopage où les dopés ont toujours une longueur d'avance sur les agences antidopage. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas Wilfried Fonck pour ce témoignage sur tout ce qui se passe aujourd'hui en prison, et on comprend bien que les personnels pénitentiaires sont dépassés et que le pas de vague est également là en prison. Mais c'est vrai que ce qu'on entend est totalement désolant parce qu'on se dit qu'il y a finalement il y a pas grand chose à faire.
Et encore une fois, il y a ce qu'on entend, il y a les faits. Tout à l'heure, on parlait du travail en prison. Alors,
oui, on a vérifié.
Aujourd'hui, c'est 30%, 31% des détenus qui travaillent plus ou moins régulièrement de façon rémunérée en prison. C'était le double il y a 20 ans.
Oui.
Donc déjà, on a perdu...
Mais ils ont plus besoin de travailler, il y a le trafic de drogue qui fait que...
Oui, mais on a reculé d'une manière... Mais c'est une question de moyens aussi. Il y a beaucoup plus de détenus aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans. Et puis, je reviens sur ce chiffre. Là, on parlait tu évoquais le cannabis, la drogue qui circule en prison. C'est un chiffre de l'Office de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies. Un détenu sur 4 fume aujourd'hui quotidiennement en cellule. Donc voilà.
Alors, on a fait un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. La prison est-elle devenue le Club Med?
Allez, l'interpellation était provocatrice. Mais en tout cas, la réponse, elle est sans détour. C'est 93% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux qui l'estiment, oui, que la prison est devenue un Club Med.
Et c'est vrai que c'est rare qu'on atteigne les 90% dans les sondages.